France Musique. Musicopolis. Mai 1770, Naples. En visite à Naples, après une représentation d'opéra au San Carlo, le voyageur anglais Charles Burney écrit ceci. Il n'est pas facile d'imaginer ou de décrire la grandeur et la magnificence de ce spectacle. C'était le jour de la fête de Saint-Charles, fête du roi d'Espagne. Et la cour était en grand gala. La maison n'était pas seulement doublement illuminée, mais aussi encombrée d'une incroyable foule de gens très bien vêtus. La scène est immense et les décors, costumes et accessoires sont somptueux. Le San Carlo, comme spectacle, dépasse tout ce que la poésie ou le roman ont pu dépeindre. Cela dit, poursuit Burney, il faut reconnaître que la taille du bâtiment et le bruit du public sont telles qu'on ne peut entendre distinctement ni les voix ni les instruments. On m'a dit pourtant qu'en raison de la présence du roi et de la reine, les gens étaient moins bruyants que les soirées ordinaires. Dans la musique, beaucoup du clair-obscur est perdu. Et en dehors des passages forts et furieux, qui sont là d'abord pour donner du relief au reste, on ne peut rien entendre nettement. D'une manière générale, on perd les demi-teintes et le fond sonore. Et en vérité, il reste bien peu de choses en dehors des traits de plume les plus francs et les plus rudes du compositeur. Le 30 mai 1770, ce n'est pas la fête de Saint-Charles, mais le roi et la reine sont venus au San Carlo. Ils vont assister dans le bruit et l'agitation à la première de l'ouvrage commandé tout spécialement pour la fin du printemps au signor Niccolò Jommelli, l'un des plus célèbres compositeurs de l'époque, récemment revenu s'installer dans son pays natal, Armida Abbandonata, Armide abandonnée. En 1770, Niccolò Jommelli a 56 ans. Il est né en 1714, la même année que Gluck et Carl Philipp Emanuel Bach. Comme eux, il participe au grand changement de style de la musique qui est en train de passer tranquillement du baroque au classique. Jommelli a commencé sa carrière en Italie, notamment à Rome. Puis il a travaillé 16 ans pour le duc de Württemberg à Stuttgart. Voici un an qu'il est rentré à Naples. Il n'a pas de poste sur place, mais en revanche, un contrat pour envoyer des opéras à Lisbonne, à la cour portugaise. Quella brì di marro da. En novembre 1769, avant même de savoir qu'il composerait un opéra au printemps, Jomelli écrivait à son ami le poète et librettiste Gaetano Martinelli que la troupe de l'Opéra Royal était engagée. Avec le soprano Giuseppe Aprile, primo uomo, premier rôle masculin, un castrat donc, et la soprano Anna De Amicis, prima donna, premier rôle féminin. Pietro Santi, castrat contralto, est engagé comme secondo uomo, second rôle masculin, et Arcangelo Cortoni comme ténor. À part la soprano Anna De Amicis, Jomelli les connaît tous pour les avoir eus dans sa troupe à Stuttgart. Il apprécie particulièrement le primo uomo Giuseppe Aprile, à qui il confie le rôle de Rinaldo. Lorsqu'il était à Stuttgart, chez le duc de Württemberg, Jomelli avait un poste en or. Il devait composer chaque année seulement un opéra sérieux et une pastorale ou un opéra comique, parfois même moins. Mais maintenant qu'il est le compositeur de la cour de Lisbonne, il doit à son patron non seulement un opéra et une pastorale par an, mais encore des airs supplémentaires pour ses anciens ouvrages, adaptés à la troupe portugaise, et aussi beaucoup de musique religieuse. Et on lui demande en plus de la musique pour Naples. En tant que sujet du roi, habitant la ville, il ne peut pas refuser d'écrire des opéras pour le San Carlo. On entend avec cet air d'Armide que la signora Anna De Amicis, créatrice du rôle, avait certainement des moyens assez exceptionnels et que Jomelli savait bien comment s'en servir pour caractériser son personnage de magicienne despotique. L'histoire, inspirée de la Jérusalem délivrée du Tasse, est celle d'Armide qui retient dans son palais des chevaliers chrétiens et notamment Rinaldo, qu'elle aime et qui est amoureux d'elle en retour. C'est à Rinaldo que Jomelli confie le premier récitatif accompagné de sa partition. Contrairement au récitatif ordinaire, soutenu seulement par le clavecin, le récitatif accompagné fait intervenir l'orchestre à des moments un peu stratégiques de l'ouvrage. Ici, Rinaldo, qui vit depuis un certain temps au milieu des plaisirs dans le palais enchanté d'Armida, vient de rencontrer Tancrède, qui lui a fait honte. Comment un brillant chevalier comme lui peut-il oublier ses devoirs de guerrier ? Rinaldo s'interroge. Sens de l'honneur, de la gloire, pourquoi donc en mon sein je vous cherche et ne vous trouve point ? Rinaldo est bien décidé à quitter Armide et les plaisirs de l'amour pour retourner guerroyer dans le camp de Godefroy de Bouillon. Mais justement, voilà qu'Armide survient et qu'elle fait tomber toutes les résistances de son amant. Réconciliation. Duo d'amour, voilà ce qui n'existe quasiment pas dans l'opéra seria baroque. Mais justement, nous ne sommes pas dans un opéra baroque. Jommelli, quoique discret, sans publier de longues préfaces comme son collègue Gluck, sans théoriser sur son art, a beaucoup d'idées sur la manière dont il veut faire avancer son ouvrage. L'alternance implacable récitatif aria da capo lui pèse et il sent le besoin d'organiser ses scènes de manière beaucoup plus dramatique. Par exemple, la grande scène d'Armide au cours de l'acte 2. Rinaldo lui a renouvelé ses sentiments de fidélité, mais elle doute. L'utilisation du récitatif accompagné permet de faire sentir l'évolution de sa pensée et de ses sentiments. Rinaldo, ô Dieu, je le vois presque partir. Je m'emporte en vain. Contre qui, je ne sais. Je voudrais. Mais je ne comprends pas. Moi-même, mes désirs. Et je trouve sur mes cils des pleurs que je n'ai point appelés. Divinité, que dois-je faire ? Qui peut me conseiller ? Le récitatif s'enchaîne tout naturellement avec l'aria. Ah, je te sens, mon pauvre cœur, agité d'espoir et de crainte, palpiter dans mon sein, chante Armide. Pourtant, cette fois-ci encore, elle a réussi à retenir Rinaldo. Et entre récitatif accompagné et air, Jommelli a pu exprimer les sentiments contradictoires qu'elle ressent. Doute, tendresse, angoisse. Lorsqu'il compose son Armida Abbandonata, il a fait la connaissance de son interprète Anna de Amicis, mais il n'a pas beaucoup de temps devant lui. Alors que la première est prévue pour le 30 mai, Il écrit le 24 avril qu'il n'a pas pu refuser d'écrire son opéra pour Naples. Opéra qu'on lui a proposé seulement la veille parce que le signor Sacchini, à qui il était destiné, s'est déclaré souffrant à Munich. Jomelli est donc le second choix du directeur du San Carlo. Il se trouve embarrassé puisque non seulement le délai est très court, mais encore le livret ancien a été revu, à son avis, sans aucun goût. Rinaldo, convaincu par ses amis, s'est décidé, cette fois-ci pour de bon semble-t-il, à quitter Armide et à retourner au camp de Godefroy de Bouillon. Mais il doit affronter encore une épreuve, traverser une forêt enchantée et abattre un myrte qui y pousse. Il traverse la rivière sur un pont d'or qui s'effondre juste après son passage. Il est saisi par la douce odeur apportée par la brise et par l'aspect nouveau du bois lorsque chantent les oiseaux. Rinaldo se rend bien compte que tout est fait ici pour le séduire à nouveau et l'empêcher de s'en aller. Et à nouveau, Jomelli conçoit une grande scène unifiée où s'enchaînent le plus naturellement du monde, récitatif accompagné, comme on vient de l'entendre, air court qui ne retarde pas l'action et même chœur. Alors que Rinaldo veut abattre le myrte, apparaissent des nymphes gracieusement vêtues, chacune tenant un instrument de musique au son duquel elles chantent en chœur. Rinaldo se laisse d'abord attendrir par le chant des nymphes, mais il repense à sa résolution d'obéir à Godefroy et d'abattre le myrte. Il se décide. Au moment même où il va frapper l'arbre, apparaît Armide qui s'interpose. Le cœur de Rinaldo est encore mis à rude épreuve. Véritable nouveauté pour le public napolitain que ces scènes unifiées créées par Jomelli, qui privilégie l'action et la vérité dramatique plutôt que l'inévitable alternance récitatif-aria. Mais justement, tout ça est un peu trop sérieux sans doute pour la frivolité ambiante. Et Armida Abbandonata ne recevra qu'un succès moyen. À la fin du mois de mai 1770, deux musiciens salzbourgeois, Léopold Mozart et son fils Wolfgang, 14 ans, sont de passage à Naples. Le 29, le garçon écrit à sa sœur. Avant-hier, nous sommes allés à la répétition de l'opéra de Signor Iomelli. C'est une œuvre bien écrite et qui me plaît vraiment. Nous avons parlé à Signor Iomelli qui a été fort aimable. La De Amicis chante incomparablement, tout comme Aprile. Malgré cette bonne impression à la répétition, le jeune Mozart est ensuite influencé par les opinions des Napolitains. Après la première, il écrit « L'opéra est beau, mais trop sage et démodé pour le théâtre ». Néanmoins, cette nouvelle manière de concevoir les grandes scènes l'influencera lui-même dans ses plus grands opéras. Quant à Iomelli, après un dernier ouvrage dramatique la même année, déçu sans doute de la réception des Napolitains, il se consacrera dorénavant à la musique religieuse. La scène finale d'Armida Abbandonata de Niccolo Iomelli, que nous avons écouté dans la version de Christophe Rousset avec les talents lyriques, et notamment Eva Malas-Godlewska en Armide, Claire Brua en Rinaldo et Gilles Ragon en Tancredi. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Marie Lepeintre pour le mixage, Max Dosolm pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.